secretos de tu alma.
Les Racines du Ciel, une émission de Lélie Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Alain Joubert. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête de Pâques, qui est pour les chrétiens un temps de célébration essentielle, à savoir celui de la résurrection du Christ, nous recevons François Besplug pour évoquer la manière dont Jésus a été représenté dans l'art chrétien et surtout ce que ces représentations représentent, au-delà de l'illustration historique ou allégorique, ce qu'elles essaient de nous dire sur la nature humaine ou divine de Jésus. Et comment, dans certains cas, une mise en présence, elles deviennent en fait ces œuvres d'art, une mise en présence non plus de Jésus, mais du Christ ressuscité qui regarde celui qui le contemple et parle à ses yeux pour atteindre son âme. François Besplug, vous êtes historien de l'art, mais aussi théologien et historien des religions, ce qui vous permet de faire le pont entre les notions théologiques et leurs représentations plus ou moins fidèles dans l'histoire de l'art. Ce plus ou moins fidèle, en fait, est très important dans toute votre œuvre, d'une certaine façon, car comme nous allons le voir, c'est précisément dans les écarts que se manifeste à la fois la créativité des artistes et leur relation personnelle aux données théologiques et même, je dirais, à la personne de Jésus. Vous avez publié de très nombreux ouvrages, dont je ne citerai que quelques-uns, en particulier « Dieu dans l'art », qui a été publié au CERF, mais aussi plus récemment, chez MAM d'Esclée, le regard du Christ dans l'art, temps et lieu d'un échange, dans une collection qui porte un joli nom, la collection Jésus et Jésus-Christ. Et c'est un livre qui d'ailleurs est magnifiquement illustré. Et en 2015, vous avez fait paraître au CERF un très joli livre, Jésus a-t-il eu une enfance, livre original qui invite à regarder les tableaux autrement justement qu'avec un regard infantile, pour y retrouver peut-être un Christ différent de celui que l'on s'imagine. Alors, François Besplug, on va peut-être justement commencer par cette enfance de Jésus, avant d'arriver à son regard et à sa résurrection.
Oui, volontiers, oui.
Pourquoi vous avez écrit ce livre dont le titre est si joli, en fait, « Jésus a-t-il eu une enfance ? » Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, finalement,
de parcourir
ça ? Ce qui m'a donné
l'idée, c'est les nombreux enfants Jésus peints par des peintres ou sculptés par des sculpteurs qui ont l'air d'un petit adulte en réduction et qui font des gestes que je n'ai jamais vu faire par les nombreux petits-neveux et arrière-petits-neveux que j'ai du fait de ma famille nombreuse, si vous voulez. Donc, je me suis dit, mais d'où sort que l'on donne à Jésus des attitudes déjà d'une gravité, d'une solennité qui ne correspondent absolument pas à ce qu'est un enfant. Et surtout, si vous voulez, ce qui m'a intéressé, c'est le ricochet de cet étonnement sur des questions de théologie. Si Jésus est vraiment Dieu fait homme, bon, a-t-il d'une certaine manière télescopé l'enfance en se faisant homme, ou a-t-il eu, comme tout homme, à passer par des apprentissages? A-t-il appris à manger, à se tenir debout, à apprendre l'orthographe, vous voyez? Et ces représentations picturales, elles, d'une certaine manière, paraissent le nier. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus était devenu tellement Dieu fait homme que Dieu, dans Dieu fait homme, avait avalé l'homme. Et l'homme, il n'en reste plus grand-chose.
Oui, d'ailleurs, vous parlez même d'une sorte de docétisme latent. Alors, expliquez déjà ce que c'est que le docétisme à nos auditeurs, mais c'est très facile.
Oui, il y a docétisme quand on tient qu'au fond, l'humanité est comme une simple apparence. Elle n'a pas de vraie réalité. Ça vient d'un verbe...
L'humanité de Jésus.
L'humanité de Jésus. Et cela vient d'un verbe grec, dokein, qui veut dire sembler. Bon. Et ce sont tous les gnostiques et les hérétiques qui, au fond, disent, mais ne vous fiez pas à ce que Jésus a semblé être. En fait, il était Dieu et il avait une divinité, j'allais dire, qui, d'une certaine manière, gommait son humanité. Bon. Alors, au fond...
Et ça, c'est une hérésie, du point de vue de dogme catholique. liturgie.
Oui, absolument. Bon. Mais l'Église, si vous voulez, a des positions de principe. Elle ne règle pas la question de savoir si on doit s'interdire de représenter un petit enfant Jésus extrêmement grave, qui commence de faire des gestes de bénédiction alors qu'il est encore au berceau,
oui. Hein,
qui a l'air d'être un enseignant de métier qui sort de l'université alors qu'il a 6 ans ou 12 ans. Ouais. Lors de la scène, par exemple, de Jésus parmi les docteurs au temple, lorsqu'il est retrouvé par ses parents qui l'ont un peu égaré. Bon. Et c'est très intéressant de voir comment Jésus est représenté. Et très souvent, il est représenté comme un enseignant de métier, d'une gravité, d'une solennité, mais incroyable, à 12 ans.
Oui, à 12 ans. Et d'ailleurs, il est habillé parfois presque en prêtre ou en roi.
Exactement.
Il est déjà.
Exactement.
Il est déjà le Christ en devenir, en réalité.
Voilà. Il est plus que ça. Il est déjà le Christ docteur des nations. Sauveur du monde, rédempteur universel, et comme s'il avait, dès l'enfance, compris, au fond, ce qu'il avait à faire sur Terre. C'est pas évident, ça aussi. A-t-il eu tout de suite conscience qu'il était le Messie ? Bon. Du coup, j'ai eu envie, si vous voulez, de mettre l'art chrétien en examen.
Oui, et presque en examen critique, je dirais,
oui,
parce qu'on
critique.
Sent quand même, on sent sous votre plume que, intimement, même si vous êtes théologien, intimement, vous pensez vraiment que Jésus a été enfant, que le petit Jésus était comme tous les enfants.
J'ai tendance à penser, si vous voulez, que le dogme de l'incarnation, s'il faut le prendre au sérieux, doit inclure l'idée que Jésus est passé par des apprentissages, comme tout petit homme doit en passer par là, c'est tout. Et du coup, au nom même de la rigueur du dogme catholique auquel j'adhère, je trouve qu'il faut mettre un peu en question ces représentations qui ont l'air de dire que Jésus a coupé court à tous les apprentissages. Court-circuité, exactement.
Et alors, comment expliquez-vous cela ? C'est-à-dire, pourquoi les artistes, de manière aussi continue ? Alors, vous montrez qu'il y a des exceptions, qu'il y a des artistes qui montrent un Jésus qui a l'air d'être un véritable enfant,
mais
ils sont assez peu nombreux.
Ils sont peu nombreux.
Et alors, comment expliquez-vous cette continuité, quand même, qui est, comme vous disiez, une sorte de docétisme latent, donc presque une hérésie ? Pourquoi les artistes ont fait ce choix-là ? Est-ce qu'ils avaient peur de représenter un enfant nu et véritablement humain ? Est-ce que...
Ils avaient le souci, je pense, pour une sorte de clarté univoque de ce que l'art représente comme enseignement aux fidèles, de marquer tout de suite l'identité de Jésus comme sauveur du monde. De peur, si vous voulez, qu'on le prenne pour un enfant ordinaire, ils ont souligné son identité de manière presque forcée et un peu artificielle. Je pense que c'est un souci, si vous voulez, de lisibilité qui a été poussé presque à l'excès. À force de trop souligner, c'est comme les gens, si vous voulez, qui vous expliquent les choses 4 fois plutôt qu'une. Bon. Là, on a stabiloté la divinité de Jésus enfant de telle sorte qu'il n'y ait aucun doute possible. Mais on aboutit à quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'on dirait que Jésus n'a pas été l'un de nous. Bon. Et moi, comme théologien, regardant l'histoire de l'art de façon un peu critique, rétrospectivement bien sûr, je mets en procès un peu, si vous voulez, ces représentations, dire qu'à force de trop stabiloter la divinité de Jésus, on a l'air de dire qu'il est quelqu'un, il est, je sais pas comment dire, il est passé parmi nous, mais sans être l'un de nous. Ça va pas non plus.
Peut-être que ça a été fait parce que précisément les artistes avaient quand même un but. Il recherchait un but précis qui n'était pas du tout d'être réaliste, d'une certaine façon.
Non, qui était surtout, je pense, de plaire en édifiant. Bon, alors, l'édification est devenue probablement, si vous voulez, la motivation principale des artistes religieux qui en ont rajouté des couches non nécessaires. Bon, alors du coup, même quand le petit Jésus est enveloppé de linge, dans des bandelettes, presque emmailloté, il fait des gestes d'enseignement et de bénédiction absolument ahurissants. Bon, mais à l'époque, je pense, d'ailleurs, ça n'a surpris personne. Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'histoire du regard sur ces images. Il se pourrait que je sois un des premiers à pouvoir m'en étonner, parce que nous avons, du fait des moyens de reproduction technique multipliés à notre époque, une capacité, si vous voulez, de visite multipliée des archives d'histoire de l'art, et du coup, surgissent des questions que les gens, mais deux ou trois générations avant moi, ne pouvaient pas soulever. Ils n'en voyaient pas assez pour que cette question s'impose à leur attention. Bon, mais c'est vrai que, en tout cas en Occident, il y a eu en charge de l'art une sorte de mission d'enseignement, c'est sûr. Bon. Alors qu'en Orient, je crois que la théorie de l'icône a développé l'idée que vous évoquiez vous-même, d'ailleurs en me présentant, d'une mise en présence et d'une rencontre entre un spectateur et puis celui qui est représenté dans l'icône. Une interlocution presque. Bon,
Alors voilà, ça c'est vraiment le sujet de l'autre livre que j'ai cité en début d'émission, Le regard du Christ dans l'art, dans lequel vous montrez toutes ces... Au fond, c'est l'histoire du regard. C'est pas seulement l'histoire du regard du Christ, mais c'est aussi l'histoire de comment nous, on regarde les tableaux, puisqu'évidemment, si on nous donne ou pas le regard du Christ, ça change totalement la façon dont on interagit avec le tableau, François Besflux.
Oui, et ce livre m'a intrigué, et j'ai eu aussi un fou plaisir à me lancer dans une enquête réputée impossible auprès des historiens de l'art, qui m'ont dit, mais tu vas pas te lancer dans une enquête là-dessus. C'est insaisissable, le regard du Christ, ça ne fait pas. D'ailleurs, si vous regardez un dictionnaire d'histoire de l'art ou un dictionnaire d'iconographie chrétienne, jamais vous ne verrez un article regard.
Et vous dites d'ailleurs qu'il n'y a aucun texte sur le sujet,
non,
ni ancien ni moderne.
Il y a très peu de textes, alors que je crois que, mais une bonne partie de l'histoire de l'art chrétien, en Orient comme en Occident, se joue dans ce croisement possible des regards entre le spectateur et le Christ représenté. Bon, on le voit bien d'ailleurs sur des scènes où très rarement on voit le Christ regarder quelqu'un d'autre. Par exemple, le Christ regardant Judas, plongeant ses yeux dans les yeux de Judas, disant « Judas, c'est par un baiser que tu me trahis ». Bon, et on voit bien l'importance que le thème du regard peut avoir dans la peinture. Mais c'est beaucoup plus fréquent encore entre le spectateur et le Christ frontalement disposé, avec le regard bien ouvert. Bon, la question étant de savoir si on peut classer les regards du Christ en regard de côté, regard qui se perd en dessous ou qui s'évade au-dessus. Alors ça m'a passionné.
Oui, absolument. Et vous explorez ça. Alors ce qui est très bien en plus, c'est que c'est magnifiquement illustré. Donc les illustrations sont très belles. Il y a des gros plans vraiment sur le visage du Christ. Donc on voit très bien, on suit très bien votre texte, en fait, grâce à ces reproductions qui sont vraiment très très bien faites. Mais peut-être revenons au début de cette histoire, puisque au tout départ, vous dites, au fond, le Christ, au départ, quand il est représenté, il n'a pas tout à fait un regard. Il n'a pas vraiment un regard. Dans le premier art chrétien, il n'a pas tout à fait un regard. Ensuite viendra la crise de l'iconoclasme, et qui, étrangement, va finalement nous livrer le regard du Christ. Mais avant d'en arriver là, parlez-nous de ces premières représentations du Christ. Quand ça commence et pourquoi ce regard est tellement perdu dans ces premiers temps ?
Alors, il faut peut-être rappeler que une chose étonnante, c'est que les premiers chrétiens qui ont été très apôtres, très missionnaires, très convaincus et très convaincants, probablement parce qu'ils disaient ce qu'ils faisaient et qu'ils faisaient ce qu'ils disaient. Bon, et du coup, ils se sont complètement passés de l'image. Ça me fascine, si vous voulez, ces moments où la foi chrétienne se propage dans tous les pays autour du bassin méditerranéen sans aucun recours aux médias du temps.
Mais parce que c'est le verbe qui compte.
Et c'est le verbe et c'est la vie accordée à ce que vous en dites. Alors ça, c'est convaincant. Bon, et du coup, petit à petit, si vous voulez, la foi chrétienne va avoir envie de dire en qui et à quoi elle croit, mais ça ne vient pas tout de suite. Bon, et ça vient comme un dynamisme expressif des amoureux qui dessinent leur amour, ou bien chantent leur amour, ou bien dansent leur amour. Ça dépend du talent qu'ils ont les uns et les autres, mais ils ont besoin d'exprimer ce à quoi ils croient. Et je vois que la naissance, si vous voulez, des images du Christ est un phénomène amoureux ou un phénomène de conviction contagieuse qui a envie justement de dire, voilà, nous croyons en celui-ci. Bon. Et ça naît comme ça. Bon. Donc, l'icône du Christ va naître comme un objet où se dit l'amour des chrétiens pour le Christ. Bon. Et c'est vrai que les premiers temps, les figurations du Christ, que ça soit par exemple dans les reliefs de sarcophages ou bien dans les peintures des catacombes, le regard n'est pas particulièrement souligné. Si vous voulez, ce qui va être souligné souligner, c'est sa position de docteur de l'humanité, sa position de sauveur.
De bénédiction, ce geste
oui,
de bénédiction.
Oui, quand il bénit, ou quand sa tête est accompagnée des lettres alpha et oméga, ça le désigne comme la sagesse de Dieu en personne. Ou quand il ressuscite Lazare avec une baguette, on regarde pas tellement les yeux de Jésus, c'est pas ça qui compte. Bon. Et c'est progressivement que, alors, quelque chose va se passer qui n'a été d'ailleurs commandé ni par le pape, ni par les évêques, ni par les synodes, ni par les patriarches. C'est une image vis-à-vis. L'icône du Sinaï, qui date du 6e siècle, de l'époque de Justinien, donc les années 550, je crois que c'est un des premiers exemples très frappants où vous avez un Christ parfaitement frontal, représenté en buste, parce que c'est sa présence qui est visé. La possibilité de répondre à sa présence par ma présence de spectateur, en vue d'un échange qui va me transformer. Parce que lui, c'est mon avenir. Voyez, et c'est ça l'icône. L'icône est une présence en vue d'une transformation personnelle eschatologique, c'est-à-dire tournée vers l'avenir.
Oui, et donc en quelque sorte, à nouveau, on revient à cette idée de mise en présence. C'est-à-dire, presque, il ressuscite une deuxième fois d'une certaine façon, pour le spectateur.
Il redevient présent. Voilà, il se rend présent et il est rendu présent par l'icône avec, pas simplement, si vous voulez, une présence inactive, mais il est un ferment de transformation pour tous ceux qui se fient à sa présence dans l'icône.
Voilà, et il s'agit donc précisément de le reconnaître à travers cette image, d'où les codes qui font qu'il faut bien qu'on le reconnaisse, qu'on le distingue d'un autre personnage représenté.
Alors là, vous abordez un problème qui est délicat. Les historiens de l'art sont d'accord pour parler, en termes un peu techniques, de la polymorphie du Christ durant plusieurs siècles. C'est-à-dire qu'on l'a représenté d'abord à un âge variable. Très curieusement, le Christ souverain est ressuscité et présenté parfois comme s'il avait 15 ans ou 30 ans. Parfois, il est représenté en vieillard, mais carrément en vieillard, âge qu'il n'a jamais atteint, pas sur cette terre en tout cas, oui. Parfois, on le représente avec des cheveux un peu crépus, d'autres fois avec des cheveux lisses qui descendent jusqu'aux épaules, parfois des colliers de barbe, parfois avec une barbe bifide. Variété extraordinaire des allures du Christ durant, mettons, du début de l'art chrétien, début 4e siècle jusqu'au 7e, 8e.
Et ensuite, pourtant, on le reconnaît.
Dans cette variété, on
sait quand même que c'est Jésus.
Il n'y a souvent pas beaucoup d'hésitation, parce que vu la position qu'il occupe dans l'église, dans l'abside, ou vu les gestes qu'il fait, ou quand il tient un livre ouvert qui dit « Je suis la voie, la vérité et la vie », il n'y a plus d'équivoque, ça ne peut être que lui.
C'est ça, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même le positionner ou lui donner des attributs qui très clairement le désignent comme
voilà.
Le Christ.
Voilà, et les attributs, les livres ouverts qu'il tient en direction du spectateur, compensent l'hésitation ou l'équivoque qu'il pourrait y avoir à cause de son allure, l'allure changeant beaucoup.
Voilà. Absolument. Et alors, d'ailleurs, à propos du livre, je fais juste une parenthèse, vous le dites pas vraiment, mais j'ai quand même l'impression que quand vous dites que très souvent on le voit avec un livre ouvert, est-ce que c'est pas aussi une allusion au fait qu'il est le Verbe fait chair?
Si.
C'est-à-dire le fait qu'on représente sa chair avec, en interaction avec le Verbe.
C'est une allusion multiple, j'accueille complètement votre suggestion, c'est le Verbe fait chair, il est le vrai philosophe qui enseigne la vraie doctrine, il est aussi celui qui anime de bout en bout l'écriture sainte, il y a 5 ou 10 raisons de le représenter en enseignant avec son livre. Alors, ce livre, il a pris plusieurs formes. C'était des rotulus, des rouleaux, ou bien c'était des beaux codex avec une reliure, un fermoir, etc. Bon, mais il est très souvent avec le livre.
Voilà. Donc, je vous ai interrompu, vous disiez, il y a une multiplicité de représentations du Christ.
Voilà.
Et puis après.
Et ensuite, alors ça se stabilise petit à petit, bien que, au fond, on ne puisse pas dire que tous les Christ représentés dans l'histoire de l'art ont un air de famille. C'est trop vite dit. Moi, je pourrais vous montrer des images où, franchement, ils n'ont aucun air de famille. Mais simplement, très souvent, sa dignité, son habit, sa position, ses attributs, le fait qu'il porte, par exemple, la boule du monde dans la main, le fait qu'il bénisse ou fasse le geste de l'orateur dans l'Antiquité, qui va prendre la parole, tout cela gomme les hésitations que l'on pourrait avoir sur l'identité de celui qui est présenté ainsi.
France Culture, les racines du ciel, Lely Humbart.
Mais alors pourquoi, si les premiers chrétiens ont ressenti par amour le désir de représenter celui en qui ils avaient cette foi fervente, pourquoi il y a eu donc une crise qui, à un moment donné, a divisé le monde chrétien entre ceux qui étaient pour la représentation et ceux qui étaient contre? Qu'est-ce qui s'est passé soudain pour que cette rupture se fasse? Et que d'ailleurs, après, on la traverse et on revienne à une représentation à outrance, alors, pour le coup.
Le rapport que les grandes religions du monde ont avec les images est un rapport problématique. La plupart d'entre les grandes religions du monde ont passé par plusieurs phases à ce sujet et sont toujours susceptibles de connaître de nouvelles crises à ce sujet. Vous prenez par exemple l'hindouisme, en date ancienne n'a aucune image, n'a pas de temple, n'a pas d'hôtel. Toutes les célébrations se font en plein air et il y a un brahmane qui récite tout ce qu'il faut de
Alors,
mémoire.
Ça, vous me l'apprenez, je ne savais pas.
L'hindouisme, 1000 ans sans images ni temple. Le bouddhisme, 4 siècles. Le christianisme, 3 siècles, un peu moins. Bon. Mais si vous voulez, il y a beaucoup de religions qui sont passées d'une phase qu'on appelle d'aniconisme, pas d'image, à une phase iconophile. Bon. Alors, ça a été le cas du christianisme, mais le christianisme s'étant converti au rapport positif à l'image, a été régulièrement secoué par des courants de spiritualité qui disaient, au fond, le risque d'une retombée dans le paganisme, dans le fétichisme, dans l'idolâtrie, au fond, est grand. Nous devrions être un peu plus réservés ou nous administrer une sorte de jeûne thérapeutique, voyez, une cure. C'est ce que pensait même un homme comme le père Marie-Alain Couturier de l'ordre dominicain, lorsqu'il a beaucoup prôné le renouveau de l'art sacré. Il a été très proche de Le Corbusier, qui était carrément un iconique, qui ne voulait pas d'image au couvent de l'Arbrel, etc. Bon, ce sont, si vous voulez, des mouvements qui régulièrement reviennent et qui ont donné la crise de l'iconoclasme à Byzance, puis ensuite la crise de l'iconophobie en Espagne, chez les Francs, Jean Hus, Wycliffe en Angleterre, les réformés, les réformateurs, ont débattu entre eux, y a-t-il profit ou non à avoir des images. Bon. Calvin sera mais cinglant. L'esprit de l'homme est une boutique et une quincaillerie. Si vous introduisez des images, vous introduisez des gestes frauduleux. Bon. Luther, beaucoup plus subtil, disant quand même l'homme a une sensibilité, il a 5 sens. Est-ce que c'est pas un petit peu se tromper sur lui que d'imaginer qu'il puisse avoir un rapport à Dieu qui ne passe absolument pas par des images? Et Luther est passé par plusieurs phases jusqu'au moment où il dit il faudra des images. Nous devons en passer par des images parce que nous avons une sensibilité.
D'autant plus qu'à nouveau, dans le christianisme, la dimension charnelle de Jésus est quand même centrale.
Alors, dans le christianisme, c'est décisif. C'est ce qui fait que, au fond, par rapport aux deux autres monothéismes abrahamiques, le christianisme a des raisons que n'ont pas les deux autres d'avoir un rapport positif à l'image parce que Dieu, tout transcendant qu'il soit, s'est fait homme et a été touché, vu, entendu en Jésus de Nazareth.
Bon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que, au fond, il savait, ceux qui étaient contre l'image, en tout cas qui s'en méfiaient, que l'image peut être extraordinairement puissante à nouveau. C'est-à-dire qu'elle peut réactiver quelque chose dans les profondeurs de l'émotion par à nouveau cette idée de mise en présence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que ils étaient contre l'image parce qu'ils savaient à quel point l'image peut être puissante.
Oui, mais vous prenez un homme comme Saint Augustin, qui est loin d'être un imbécile, qui est une des figures majeures de la culture et de la théologie chrétienne, surtout dans le Moyen-Âge latin.
Bon. Voilà. Pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur et pour le pire, je suis d'accord. Mais moi, j'ai passé un an de ma vie à lire saint Augustin, mais c'est un esprit supérieur, supérieur. Bon. Or, saint Augustin, pour en rester à la question que nous débattons, si vous voulez, il était très opposé à l'idée de faire des images du Christ. Il dit, mais qu'est-ce que ça va apporter? Et il avait le sentiment que ça risque même de détourner l'attention des chrétiens vis-à-vis de la parole de l'Évangile. Alors, de fait, c'est très intéressant comme objection, si vous voulez, parce qu'ensuite, elle a été complètement dépassée. Mais à l'époque de saint Augustin, donc fin 4e, début 5e siècle, l'icône ne s'est encore pas du tout imposée. Il n'y a pas eu de mesure de concile écuménique qui dise « oui, il est légitime de fabriquer, d'exposer, de vénérer des images ». Et donc, saint Augustin est un homme qui fait partie, sans être un iconoclaste ou un iconophobe, il fait partie du, je ne sais pas comment dire, des théologiens résistants à l'image. Oui. C'est, bon, et il y en a eu à peu près à toutes les époques des gens comme ça. Bon, c'est finalement le parti iconophile qui l'a emporté, à mon avis, validement. Et c'est, comment dire, c'est tout à fait légitime que le christianisme se soit engagé, mais complètement et sans réticence, en faveur d'un rapport positif aux images tel que nous le définissions tout à l'heure. Mmh. Occasion de rencontre, mise en présence, contemplative et transformante.
Alors, dans votre livre sur le regard du Christ, vous montrez, en fait, il y a quelques images que vous commentez qui sont vraiment très intéressantes. Il s'agit du regard du Christ quand il est supposément déjà mort, c'est-à-dire le Christ sur la croix.
Oui.
Et j'ai vraiment eu, c'est ça qui m'a donné l'idée d'intituler cette émission, donc représenter Jésus, est-ce que c'est ressusciter le Christ? Parce que vous montrez très bien que, eh bien, une des scènes dans lesquelles on a le plus à faire au regard du Christ, ce sont des scènes dans lesquelles, a priori, il est déjà mort. C'est-à-dire que vous dites qu'il est sur la croix, il a la blessure, il montre même parfois la blessure qu'il a sur le flanc. Et effectivement, dans les évangiles, cette blessure lui a été infligée après que l'âme...
Après que l'on a constaté qu'il était mort.
Voilà. Ouais. Donc là, c'est très frappant. C'est-à-dire que d'un coup, retrouver le regard d'un vivant alors que on représente un mort, là on est en plein dans ce paradoxe de ce que doit nous apporter la représentation.
Alors, on peut parler de paradoxe ou on peut parler d'une qualité particulière des images qui synthétisent dans un seul plan plusieurs moments du temps. Je crois que c'est le cas, par exemple, du fameux crucifix de San Damiano qui aurait parlé à saint François d'Assise et qui est un crucifix peint donc sur un support de bois où l'on voit un Christ parfaitement paisible, crucifié avec la plaie au côté, donc censément il est mort, et en même temps il tient la tête droite et a les yeux ouverts, grand ouverts. Bon, je crois que c'est à interpréter comme le fait que c'est à l'heure même où il parvient à un consentement parfait avec la volonté de son Père sur la croix et où il expire, remet son esprit au Père, qu'il est glorifié et déjà potentiellement ressuscité. Voilà. Et l'image fait ce collage, vous voulez, de deux instants du temps que la narrativité, elle, distingue. Bon, les évangiles, ils passent, la croix, la mise au tombeau, ensuite la résurrection, très bien. Mmh. Mais là, l'image, elle synthétise. Bon.
Et ces images, ça qui est frappant.
Oui, c'est très frappant. Oui. Et ça aboutit, je crois, à une conception, d'ailleurs, du Christ en croix qui a le bonheur de dépasser tout dolorisme et de faire cesser que l'on dise que le christianisme, c'est la religion de la douleur, vous comprenez? Pas du tout, là. C'est la douleur surmontée par consentement parfait et débouchant sur la vie.
Oui, et c'est déjà la résurrection qui s'annonce.
Bien sûr.
Et alors, est-ce que quand on représente le Christ ressuscité, donc le Christ au tombeau avec Marie-Madeleine, etc., est-ce que d'abord c'est un thème aussi souvent représenté que les autres thèmes? Et quand il l'est, est-ce qu'il est différent? Est-ce que la chair du Christ ressuscité est représentée différemment que la chair du Christ pas encore transfigurée?
Vous soulevez un fameux problème sur lequel je suis en train de réfléchir pour un bouquin à venir, justement sur la résurrection du Christ dans l'art. La résurrection n'a pas été aussi souvent représentée que la passion, la crucifixion, ou même que le baptême du Christ, la transfiguration des scènes de son ministère, si vous voulez. Bon, pourquoi? Probablement parce que il y a eu dans la liturgie d'abord un développement extraordinaire de la passion du Christ, dans la spiritualité une fixation très importante sur tout ce que le Christ a dû endurer pour nous sauver, et aussi parce que la résurrection a quelque chose d'un peu mystérieux et déroutant. C'est plus facile au fond de montrer un homme souffrant sur un gibet, ça se raconte mieux que la résurrection. Il n'y a pas de témoin qui puisse nous raconter ce qui s'est exactement passé. Et du coup, alors, il y a eu des représentations de la résurrection du Christ depuis le 5e siècle jusqu'au 21e. Mais notre siècle, par exemple, ou le précédent, le 20e, est la preuve de ce que je dis. C'est-à-dire, il y a eu des milliers, des centaines de milliers de crucifixions dans l'art. Combien y a-t-il eu de résurrection dans l'art au 20e siècle? Fort peu. Beaucoup moins, en tout cas, que... Alors, maintenant, je pense qu'avec ce que nous venons de dire du crucifix de San Damiano, les artistes, justement, retrouvent l'idée que la croix, loin d'être, au fond, le point central de la foi chrétienne, ce qu'il a été, malgré tout, c'est le crucifix a été le symbole absolu du christianisme, bon, est à concevoir comme une sorte de lieu de transition et presque un tremplin vers la vie. Bon, et je suis frappé de voir qu'un autre mouvement qui est en train de se dessiner depuis les années 1990, sans que personne, je le répète, du côté de la papauté ou du côté de l'église anglicane, je ne sais pas trop quoi, n'ait donné un mot d'ordre aux artistes, eh bien les artistes, dis-je, sont de plus en plus nombreux à montrer des Christs qui s'envolent depuis la croix, qui sont transfigurés en croix, etc. Des croix glorieuses, vous voyez. Ou alors, le thème du regard, on le retrouve par ce biais, mais c'est un Christ qui, c'est vrai, il a été crucifié, mais il a complètement dépassé ce stade, et surtout, ce stade, loin d'être le dernier mot de la foi chrétienne, mais c'est l'étape antépénultième, mais nous allons y venir. Voilà.
Et alors justement, en méditant sur votre livre, parce que il a aussi cette vertu qu'il invite à une sorte de rêverie ou de méditation plus approfondie, alors que vous n'en parlez pas du tout, j'ai pensé beaucoup à la scène du tombeau, enfin, où Marie-Madeleine, en fait, revoit le Christ. Alors justement, elle voit le Christ, mais elle ne le reconnaît pas au début, parce que c'est un jardinier. Alors, je ne vais pas lire le passage des Évangiles qui est très célèbre et qui sera lu probablement aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, dans les églises. Mais je vous ai apporté un extrait de la préface qui s'intitule « Marie-Madeleine », écrite par Claudel à un livre collectif qui s'appelle « Le livre des grands convertis ». En fait, c'est un livre qui a été fait par les dominicaines de Béthanie. Et donc, l'introduction est de Claudel. Et juste, il y a un extrait, là, de sa préface qui s'appelle « Marie-Madeleine ». Et voici ce qu'il en dit. Et vous allez voir que le thème du regard, justement, revient de manière troublante. Et qu'il y a un lien entre cette histoire du regard et cette résurrection au tombeau. Au tombeau, elle est encore plus abandonnée à elle-même. Dieu a complètement disparu. Elle ne peut plus l'adorer qu'en esprit et en vérité. Là, j'insiste, c'est qu'il n'est plus là. Je veux dire, il est dérobé au regard, évidemment. C'est de l'espérance seule qu'est faite la foi dont elle vit. Mais elle ne se décourage pas. Au contraire, elle redouble de zèle. Elle cherche son époux par les rues et par les places. Dès le lever du soleil, au lendemain de l'ensevelissement, avec Marie, mère de Jacques et Salomé, elle court au sépulcre. Et là encore, c'est les bras chargés de parfums qu'elle se hâte au petit jour. Elle trouve le tombeau vide. Elle entre. Un ange est assis qui lui dit « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. » Le cœur battant, elle écoute la bonne nouvelle et elle se dépêche de la communiquer. Mais ce n'est pas encore assez. Anéantie en elle-même, Marie-Madeleine ignore tout ce qui n'est pas Dieu, Dieu lui-même avec elle et pour elle. Et c'est dans cet état de ferveur que nous la retrouvons en présence du jardinier. L'âme de la sainte touche à ce stade final où elle va se transformer en Dieu. Le moment est venu pour elle du mariage spirituel. Celui-là est devant elle, c'est son amour, caché sous les apparences d'un jardinier. « Mon bien-aimé, dit le cantique, est descendu dans son jardin, au parterre de baumier. » L'instant est solennel. Elle ne le reconnaît pas encore. Elle l'interroge. « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et je l'emporterai. » Elle tremble d'impatience, de désir et d'émotion. C'est la chrysalide qui se sent devenir papillon. Elle frémit dans toute sa chair. Elle est toute dévorée par l'amour qui la consume. Et c'est alors que tombe des lèvres de Jésus ce nom et des lèvres de Marie ce cri de tendresse qui me fait tomber la plume des doigts. C'est Claudel, évidemment. Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en chemin ? J'ai vu le tombeau du Christ vivant et la gloire du Christ ressuscité. Je suis à lui, il est à moi. J'ai trouvé celui que j'aime. Je l'ai pris et je ne le quitterai jamais. C'est fini. Il ne reste plus à Marie-Madeleine qu'à mourir. Et c'est à la Sainte Baume que cette embaumeuse et cette embaumée exhalent un dernier souffle filial qu'on peut encore y respirer. Bon, ça, c'est du Claudel pur jus. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce texte, c'est qu'évidemment, au début, elle ne le, il est absent. Donc ouais. Forcément, comment représenter l'absence dans un tableau ? Et après, il est présent, mais sous des traits qu'elle ne reconnaît pas. Oui. Est-ce que finalement, c'est pas ça aussi la peinture ? C'est représenter sous des traits, comme vous l'avez dit, extrêmement divers, d'hommes qui étaient des modèles, au fond. Oui. Un être que chaque contemplant est appelé à reconnaître comme étant
voilà,
son
et dénommé. Un être qu'aucune apparence ne peut monopoliser d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a un mystère au fond du type de corps que le Christ ressuscité a désormais, sur lequel saint Paul réfléchira beaucoup dans la première aux Corinthiens, en parlant d'un corps qui a été semé mortel, et puis qui ressuscite immortel, et qui est d'ordre purement spirituel, et qui présente le paradoxe de pouvoir passer à travers les portes alors qu'elles sont fermées pour la rencontre avec les onze, et en même temps de se faire toucher et de réclamer à manger, de manger devant eux. Bon, alors c'est un corps, si vous voulez, qui échappe à toutes les définition, d'une certaine manière, et qui a l'art d'être à la fois visible, touchable, mais transcendant, parfois méconnaissable, et parfois reconnaissable. Mmh. Bon. Alors, comment faire ?
Alors,
comment
touchable, faire ? il dit pas « ne me touche pas, Marie-Madeleine ».
Il lui dit en grec « mais mou aptou, ne me retiens pas ».
Ne me retiens pas.
Voilà. Et, alors, « ne me touche pas n'est pas très exact, mais c'est vrai que ça a été interprété comme ça par la majeure partie des peintres, où on voit un Christ qui se met un petit peu en retrait pour échapper au contact. Bon. Mais d'une certaine manière, le corps du Christ est complètement touchable. On a le témoignage massif de Thomas l'incrédule qui met ses doigts dans la plaie du côté du Christ. Bon, alors là, pour le coup, il est complètement touchable, vous voyez. Bon. Mais je répète, le corps du ressuscité échappe à toutes les apparences. Il n'y a pas d'apparence clé, si vous voulez, pour le ressuscité. Et à toutes les définitions de corps, même. C'est un corps qui peut se toucher, mais en même temps qui est d'un autre ordre. Bon. Et ça a été pour la plupart des peintres, justement, un problème de savoir comment ils allaient représenter le ressuscité. La plupart ont opté pour la continuité visuelle. C'est-à-dire que le corps du ressuscité ressemble furieusement au corps du maltraité, du supplicié, de l'entrée à Jérusalem, etc.
Oui, c'est-à-dire qu'il a les stigmates, il a les blessures. Donc
on le reconnaît, il a la même allure. Mmh. Bon. En même temps, nous devons penser, si nous sommes un peu théologiens ou croyants, qu'une transformation mais radicale s'est faite, le Christ est autre. Il est à la fois le même et autre désormais, radicalement autre.
Oui, et est-ce que... Alors, je ne sais pas si... j'ai pas assez de... j'ai pas votre connaissance, évidemment, de toute l'histoire de l'art. Est-ce que Rembrandt est le seul à vraiment le représenter presque comme un corps de lumière après sa résurrection ? Dans la fameuse série qu'il a faite des compagnons d'Emmaüs, qui sont peut-être ce qu'il y a de plus beau à regarder dans toute l'histoire de l'art chrétien, en tout cas de mon point de vue. On a vraiment l'impression qu'il est devenu lumière. C'est presque plus un corps, au fond.
Oui, mais... alors, je connais bien ce problème, ayant fait un ouvrage aussi sur les disciples d'Emmaüs dans l'art.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Et c'est très passionnant, parce que Rembrandt s'est à la fois beaucoup intéressé à la présence du Christ à table avec les deux disciples, mais aussi au moment de la disparition. Comment représenter une disparition ? Autre très beau sujet pour un artiste. Bon. Et souvent, il représente les deux stupéfiés, les deux disciples stupéfiés par le fait qu'il n'est plus là, il n'est plus visible, et il reste une sorte de trace de lumière.
Voilà.
Bon. Et c'est assez beau, d'ailleurs, le fait que le ressuscité se manifeste par une trace de lumière, une sorte de sillage lumineux, comme une comète, si vous voulez. Alors, d'accord, mais j'attire votre attention sur le fait que Rembrandt a eu, au sujet de la résurrection elle-même, une toile extraordinairement intéressante et très originale. C'est l'ange qui descend pour bouger, ouvrir le tombeau, et on voit le Christ sortir péniblement de la mort, bon, encore un petit peu éberlué, époustouflé, bon, et personne n'avait osé faire ça. Bon. Et c'est un Christ qui ressemble presque à certaines représentations de Lazare ressuscité par le Christ. Mmh. Un Lazare qui s'extirpe péniblement, oui. Qui se redresse. Bon. Pareil. Et Rembrandt est le seul qui ait osé à faire ça, qui ait pensé, là aussi, l'incarnation jusqu'à ses dernières conséquences. Si le Christ est vraiment Dieu fait homme et un vrai homme, pas une allure d'homme, un docette d'homme, eh bien, il n'a pas pu sortir de la mort comme ça, comme si on avait un coup de magie. Non, il est sorti péniblement, parce que de la mort, on ne sort pas comme ça. Bon. Il est le seul, je vous dis, dans toute la tradition d'art chrétien, à avoir osé faire ça, à ma connaissance.
Oui, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi pour la même raison qu'il le représente en lumière, parce qu'il sait faire précisément la distinction entre les deux, et peut-être qu'il a aussi, qu'il assume le paradoxe. Rembrandt est quand même un artiste fabuleux pour ça, il assume ce paradoxe. Dieu, homme, lumière, ténèbres, densité de la matière.
Mais il est celui, c'est pas une correction que j'apporte ici, c'est plutôt un complément, je suis complètement d'accord avec vous, mais il a poussé la perception de l'humanité de Jésus jusqu'à faire que Jésus ne fixe jamais le spectateur. La plupart, il y a eu une exposition, il y a trois ans, magnifique, sur le portrait du Christ chez Rembrandt, et on a rassemblé. Bon, c'était fabuleux.
C'était magnifique.
On ne pouvait à peu près jamais croiser le regard du Christ. Parce que c'est un Christ voulu, humble, discret. C'est pas quelqu'un qui vous juge, qui vous foudroie du regard. C'est quelqu'un qui se laisse rencontrer et qui est presque l'homme quelconque banalisé. C'est un Jésus infiniment proche.
Oui, et d'ailleurs, on voyait dans cette exposition, et vous le dites dans votre livre sur le regard du Christ, qu'il avait utilisé d'ailleurs des modèles juifs pour être plus en accord avec...
Par respect pour la réalité humaine. Donc il a fait, il a payé un juif, alors probablement un Ashkenaz qui se trouvait dans la communauté d'Amsterdam, pour faire des séances de pose. Je trouve ça tout à fait touchant.
C'est l'idée qui se faisait en tout cas de ce qu'était un juif.
Quel peintre, si vous voulez, jusqu'à Rembrandt, s'était dit, il faut que, si je respecte ce que fut Dieu fait homme, que je respecte l'humanité de cet homme, à savoir sa judaïté.
Oui, absolument. Vous le soulignez. En fait, c'est le premier à avoir,
je pense,
à l'avoir aussi, je dirais, resitué d'une certaine façon historiquement dans son histoire.
C'est très impressionnant.
Oui.
Et c'est très cohérent avec tout le reste de sa peinture. C'est ça qui m'impressionne chez lui, c'est la cohérence de ses choix de peintre.
Oui, et le fait qu'il unit cette... Encore une fois, comme je le disais, cette densité de la matière, réalité du corps, et en même temps, cet éclat de lumière qui se dégage.
Et il est capable de circuler de l'un à l'autre, c'est-à-dire d'un Christ incandescent qui ne laisse plus qu'une trace de lumière, à un Christ extraordinairement présent, lumineux et en même temps très mystérieux.
Et c'est d'ailleurs une excellente conclusion que ce mot de mystérieux à cette émission, puisqu'au fond... Tous ces peintres n'ont jamais fait que tourner autour de ce mystère central qui est la double nature de Jésus et au fond sa résurrection pour chaque personne qui veut un jour le rencontrer.
Oui, et le mystère chez les peintres est une confession d'attirance. Et c'est ça qui est beau, si vous voulez, parce qu'il y a des mystères opaques qui fait que nous n'avons aucun rapport de désir par rapport à eux. Mmh. Or, le mystère de la résurrection est un mystère attirant, les peintres en témoignent comme de quelque chose qui les magnétise. Bon, je trouve que c'est, comment dire, une précision importante. Ce mystère-là nous attend, d'une certaine manière.
Oui, et c'est comme ça, je pense, qu'il faut regarder tous ces tableaux et que j'invite tous nos auditeurs vraiment à regarder, à explorer pour voir autrement cette histoire de l'art. Merci beaucoup François Besplug d'être venu nous parler de ce mystère. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions MAM d'Esclé, Le regard du Christ dans l'art, temps et lieu d'un échange. Et je signale que est prévu pour octobre, aussi chez Fleurus MAM, un ouvrage en fait intitulé La résurrection du Christ dans l'art en 35 tableaux. C'est pour donc octobre 2016. La semaine prochaine, nous serons reçus dans l'atelier de Gudji, un artiste contemporain d'origine russe qui pratique encore l'art sacré et qui nous parlera justement de sa quête du sacré dans les formes et la matière. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Leili Anvar. Et maintenant, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour ses chemins de sagesse.
Alors, nous avons vu dans les chroniques précédentes qu'il y avait des chemins spirituels assez ardus pour arriver à un bonheur profond, pour arriver à une joie active, qui est tout ce chemin de déliaison et de reliaison, tout ce processus d'individuation et de reliaison aux autres de manière juste, tout ce chemin aussi de lâcher de l'ego et du mental qui permet d'aller jusqu'à la joie parfaite dont parlent les sages, dont parle François d'Assise, dont parlent les sages de l'Inde, dont parlent aussi les sages de l'Antiquité, qui est cette profond état dans lequel nous ne sommes plus troublés par effectivement toutes nos émotions, tous nos affects. Alors évidemment, ça peut paraître très très ardu, très difficile pour la plupart d'entre nous. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler maintenant, à travers les chroniques qui vont suivre, de chemins peut-être plus concrets, plus quotidiens, qui peuvent nous permettre de faire des exercices, des attentions, de développer un état d'esprit qui permet de cultiver la joie, sans pour autant être dans tout ce grand cheminement philosophique et spirituel dont nous avons parlé jusqu'à présent. Parce que la joie, finalement, ne se décrète pas. On peut décréter le plaisir. On peut dire « je vais me faire un petit plaisir ». Et on va se faire un café, et on va regarder une série qu'on aime, et on va lire un livre, on va appeler un ami. On est sûr d'avoir du plaisir. Le plaisir peut être commandé. La joie, jamais. La joie ne peut pas être commandée, la joie nous tombe dessus. La joie, c'est un cadeau de la vie, c'est une sorte de grâce, c'est assez mystérieux. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de philosophes ont du mal à parler de la joie, parce qu'on ne peut pas savoir exactement ce qui produit la joie. Par contre, si on ne peut pas décréter la joie, si on ne peut pas maîtriser la joie, on peut créer un climat favorable qui favorise l'émergence de la joie. On peut donc effectivement essayer de créer un état d'esprit, avoir des attitudes qui peuvent permettre à la joie de jaillir parce que on aura encore une fois créé un climat favorable à l'émergence de la joie. On pourrait dire que la joie ne se décrète pas, mais que la joie s'invite. Et parmi les choses qui m'apparaissent les plus importantes, je dirais c'est la pratique de l'attention. Vous savez que dans toutes les sagesses du monde, on nous dit que le bonheur et la joie sont essentiellement liés à la qualité de présence et d'attention dans l'instant. C'est la fameuse phrase d'Horace, « cueille le jour », c'est être présent dans l'instant, alors que nous avons effectivement tendance à être toujours dans le passé, à nous projeter dans le futur, à être dans une forme de rumination permanente qui nous empêche d'être attentifs à ce qui se passe à l'instant présent, dans nos perceptions, dans nos sensations. Et donc, il ne peut pas y avoir véritablement de joie si on n'est pas attentif, si on n'est pas présent. La joie vient lorsqu'il y a une présence à nous-mêmes, au monde, aux autres. Et cette qualité de présence va permettre effectivement de favoriser la possibilité d'une joie. Prenons un exemple très simple. Si on se promène dans la nature, on peut être très sensible à la beauté du paysage, mais si on est en train de penser à sa feuille d'impôt qu'on n'a pas remplie ou à tous ses soucis professionnels ou affectifs, il n'y a aucune chance que la joie survienne. Alors que si on est simplement présent, qu'on regarde, qu'on écoute, qu'on sent, il peut y avoir soudainement quelque chose qui nous émeut en profondeur dans le paysage, dans les sons, un animal qui surgit, un rayon de soleil dans les sous-bois, une houle sur la mer. Et tout ça peut nous mettre dans un état de joie profonde parce que nous sommes présents, nous sommes attentifs. Il se passe exactement la même chose dans les relations. Lorsque nous sommes en présence de quelqu'un que nous aimons, en présence d'un ami, ou même des fois en présence d'un inconnu, il peut y avoir soudainement une joie profonde, un bonheur qui s'empare de nous parce que il se joue quelque chose dans l'échange, dans les mots, dans l'intonation de la voix, dans le regard. Et c'est la qualité de présence et d'attention à la relation qui permettra l'émergence de cette émotion profonde qui peut s'emparer de nous et qui peut nous mettre dans une joie intense parce qu'il s'est joué quelque chose, des fois d'infime. Il suffit d'un détail, simplement quelque chose qu'on lit au fond du regard de l'être aimé qui nous émeut en profondeur. Mais si pendant qu'on est en train de parler à notre interlocuteur, on est en train de penser à autre chose, comme on le fait souvent parce qu'on est fatigué, parce qu'on fait trop de choses, eh bien, il ne se passera jamais rien. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que tout ce que je dis là sur la qualité d'attention et de présence qui favorise l'émergence de la joie, les chercheurs qui travaillent sur les sciences cognitives l'ont prouvé d'une autre manière. Ils ont fait des études sur le cerveau humain et ils ont montré que lorsque quelqu'un était attentif à ce qu'il fait, le cerveau sécrétait des substances chimiques comme la dopamine et la sérotonine, qui sont des antidépresseurs, qui créent du bien-être. Donc nous avons naturellement en nous, dans notre cerveau, des substances chimiques qui créent du bien-être et qui luttent contre les tendances dépressives. Alors on les utilise aujourd'hui pour faire des antidépresseurs, mais en fait nous les avons à l'intérieur de nous et ils sont sécrétés naturellement chaque fois que nous sommes présents. On a fait des expériences dans lesquelles des personnes pensent à plein de choses à la fois, etc. et tout, il se passe rien. Et des personnes sont totalement attentives à ce qu'elles font, que ce soit lire, cuisiner, regarder, écouter. Et lorsque la qualité d'attention est très forte, à ce moment-là, le cerveau, naturellement, va sécréter ces substances qui vont favoriser, accentuer le bien-être. Ce qui nous donne presque une explication scientifique de ce qui se passe lorsque nous avons effectivement cette qualité de présence et d'attention qui favorise déjà du bien-être. Et moi, je vais plus loin. Je pense qu'il permet, et j'en suis convaincu parce que je l'ai souvent expérimenté, qui permet l'accueil de la joie, qui est plus que le bien-être. Mais ça sécrète déjà du bien-être. Donc on voit effectivement qu'il y a un cercle vertueux. Plus nous sommes attentifs, plus nous sommes présents, plus nous sommes dans l'instant, nous savons vivre l'instant, plus notre corps sera dans un état de bien-être et notre esprit pourra être touché par une joie qui viendra comme un couronnement, finalement, comme un accomplissement, comme un surgissement par rapport à une expérience que nous sommes en train de vivre qui peut être extrêmement diverse.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours sur le site de France Culture. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Je vous souhaite un excellent dimanche et très bonne Pâques à tous.